Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur un événement ou une problématique qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié au FIC. Les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonsoir.
Guillaume Prigent.
Bonsoir.
Jérôme Notin.
Bonsoir.
Nicolas Prigent.
Salut.
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Patrick Chambet.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Ulloa. Donc, si on devait décrire le FIC en quelques mots, Guillaume.
Alors, le décrire, c'est peut-être ambitieux. Par contre, moi, j'ai quelques chiffres parce que, bon, j'ai échangé, j'ai appelé Guillaume Tissier, là, de CVS, qui est co-organisateur du FIC, avec la gendarmerie et puis la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, en gros, bon, cette année, c'est 4300 visiteurs. Donc, c'est en gros, c'est 1000 personnes de plus hein, par rapport à l'année dernière. Donc, c'est 140 partenaires, donc ce qu'on appelle classiquement des exposants. C'est par rapport à l'année dernière, donc où ils étaient 90. Si je compte bien, ça fait 50 de plus. Et ça, on l'a senti. Enfin, moi, en tant qu'exposant, j'ai senti ça aussi, qu'il y avait quand même beaucoup plus de stands. Donc, 73 pays représentés, environ entre 600 et 700 personnes à l'international, donc non françaises, et beaucoup plus d'utilisateurs, donc de RSSI, de décideurs, de voilà. Donc, ça, c'est des chiffres, c'est des stats. C'est peut-être pas la description totale du FIC. Hein.
Alors, qu'est-ce qui caractérise le FIC, selon vous, par rapport aux autres confs ou salons ou événements sécurité?
Clairement, c'est beaucoup moins cher. Et ça, c'est pour ça que tu as autant d'administrations. Non, mais c'est pour ça que tu as autant d'administrations. C'est parce que ça rentre dans le cadre des process, notes de frais, cadeaux, invitations. Moi, j'ai remarqué que sur tous les stands, le seul goodie qu'il y avait, c'était les stylos.
Tu compares avec quoi, Nicolas, par rapport aux assises, ce genre de choses?
Bah oui, tout à fait. Les assises, il y a plein d'entreprises où il y a des codes d'éthique et, qui t'interdisent d'accepter les cadeaux de fournisseurs, et pour l'administration, c'est encore pire.
Ah bah là, nous, on paye pour y assister, hein, puisqu'on paye le transport, l'hébergement, tout ça, quoi. Et puis, bon, l'entrée est à 0 euros, mais sinon, voilà.
Effectivement, la bouffe est moins bonne, il fait plus froid aussi.
Ouais, donc les gens sont motivés, quoi.
Exactement.
Ouais, et puis les gens ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas ailleurs, quand même. C'est le nord, quoi.
Faut dire qu'ils ont choisi le mois de décembre à Lille contre le mois d'octobre à
Monaco. C'est janvier.
Janvier, ouais.
Si on leur parlait du contenu, bon, c'est quand même pas du tout la même chose, puisque au FIC, c'est beaucoup moins tagué par les partenaires dont tu parlais tout à l'heure, Guillaume.
Oui, oui. C'est plus open. Enfin, c'est plus open. Donc, moi, je peux parler facilement des assises parce que j'y suis jamais allé. C'est un principe. Voilà, c'est accessible pour les partenaires, enfin, les exposants.
Tu parles du FIC, quoi.
Ouais, du FIC, au FIC. On peut mélanger du technique s'il y a besoin. On n'a pas besoin d'avoir un affichage supra-commercial, les goodies, les machins. Moi, petite PME totalement, enfin voilà, c'est la place, faut y être, quoi. Là vraiment, si on veut, on est de ce métier-là, c'est vraiment la place intéressante pour y être. Il y a un champ des possibles, on peut faire des trucs.
Alors le public qui vient au FIC, c'est quel genre de public?
Ça avait l'air assez divers en fait.
Ah oui, c'était assez divers.
Ouais, ça c'était quelque chose qui était bien aussi, alors, notamment sur les contacts. J'admets que j'étais peut-être un peu inquiet justement parce que, enfin moi, on m'a demandé de venir pour présenter quelque chose, enfin sur un bout du salon. Et voilà. Et en fait, finalement, les interactions étaient assez riches parce que il y avait des gens qui venaient, il y avait des gens qui étaient juste curieux de voir, il y avait des gens qui cherchaient clairement certaines solutions, mais il y avait aussi, ouais, vraiment des curieux. Et puis il y a même des gens aussi de la technique. Et on pouvait discuter avec les gens qui étaient autour. Donc j'avais pas l'impression du tout d'être là pour vendre ma soupe finalement, mais c'était vraiment des bonnes interactions. Et ça, c'était assez agréable. Et finalement, l'avantage de ce truc-là, c'est quand même on présentait notre truc. Bon, nous, on n'était pas forcément là pour faire des sous, hein, on présentait des travaux de recherche, mais c'était très agréable en fait d'avoir des retours très divers sur les trucs. Donc finalement, c'est un public assez hétérogène. Bon, j'ai quand même vu, il y avait un petit côté Voie lactée, il y avait beaucoup d'étoiles sur les épaules. Mais,
ah, désolé,
mais
j'en ai pas encore.
Ah bah non, bah pardon. Mais c'est vrai que bon, c'était assez hétérogène et ça, c'était agréable, j'ai trouvé.
Bah, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté international. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais comme tu disais, Guillaume, tout à l'heure, il y a 600 personnes étrangères, donc sur 4003, c'est non négligeable.
Mais c'est en progression, c'est en progression.
Alors, en plus, c'est en progression. Moi, j'ai le souvenir du FIC il y a 4-5 ans, peut-être 4-5 ans, où il y avait pas mal de personnel des forces de police étrangères qui étaient en uniforme. Ça s'était beaucoup perdu. Et là, cette année, j'ai revu des gens en uniforme étranger, donc c'est aussi assez intéressant.
On a organisé une réunion de la FIEP, hein, c'est une association des gendarmeries au niveau mondial, et ce qui nous a permis de faire venir pas mal de monde. Et il y avait pas mal aussi de services de police européens, et bah, par exemple les Allemands, les Anglais, ils étaient très présents.
Mmh. Ah, puis il y a aussi des étudiants au FIC, hein. Et les gens viennent pour recruter, c'est pas du tout le cas aux Assises.
Ah bah, il n'y a pas d'étudiants aux Assises, ça c'est sûr.
Oui, très peu, oui.
Non, mais ils filtrent aussi pas mal sur les étudiants au FIC, et je pense que c'est une bonne chose, il en faut, parce que c'est effectivement un vivier. Maintenant, pour ceux qui ont fait InfoSec il y a quelques années, t'avais un mec, c'était un consultant, après t'avais un étudiant, et puis de temps en temps, t'avais une boîte qui passait. Donc,
Moi, j'ai une info, le nombre d'étudiants a été quand même limité, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, à un moment donné, il y avait plus d'inscrits étudiants que d'étudiants qui ont pu rentrer. Voilà, parce que il y avait une vraie demande de la part du monde des étudiants de venir. Voilà, ils ont limité un peu pour pas que ce soit qu'il y ait un mélange des genres. Voilà. Mais je trouve cette initiative quand même très intéressante.
Et le fait de limiter, moi je trouve que c'est bien aussi. Enfin, comme je
oui, disais, c'est bien aussi.
Il en faut, mais moi je discutais justement avec une personne en uniforme qui avait un grade assez élevé. Et il y a trois types qui sont venus, ils sont plantés dans la conversation, ils ont commencé à couper la discussion qu'on avait avec le militaire. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. C'est qu'une anecdote, hein. Je pense qu'on peut parler d'anecdote, mais t'as pas ça en général sur des trucs très professionnels. Mais bon, c'est pas grave, tant mieux.
Et puis, de ce côté-là, les retours que j'ai eu des étudiants, des nôtres, en fait notamment, ils étaient quand même plutôt contre les venus. Bon, il y avait la partie challenge, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que ouais, ils ont trouvé ça bien. Ils étaient contents, ils ont rencontré plein de gens. Ils ont eu la sécurité, ça se limite pas à ce qu'ils voient, qu'il y a vraiment plein de domaines. Finalement, ça aussi, c'était vachement hétérogène dans les types de sécurité qu'on peut avoir. Et ça, c'était assez chouette, ouais, aussi. Et ils ont trouvé ça bien.
Ouais, puis beaucoup des exposants ont joué le jeu, c'est-à-dire du ministère de la Défense aux entreprises qui étaient là. Il y avait une variété de ce qui était montré, effectivement, qui était assez intéressant.
Bah, le MINDEF, je sais pas, moi j'ai pu y aller un petit peu sur le stand, ce qu'ils montraient était vraiment sympa. Tu avais des séances à heure fixe, je pense, où ils expliquaient justement ce qu'ils pouvaient emmener en opération extérieure, fonctionnement des outils de supervision, ce genre de choses. Donc c'était assez ludique, en plus, l'explication.
En ce qui concerne les conférences.
Alors, juste pour info, pour vous donner le contexte, les conférences, toute l'organisation du contenu de la conf, c'est quelque chose sur lequel on bosse pendant plus de 6 mois. Hein, il y a un conseil scientifique. Alors, c'est pas parfait, hein, mais il y a beaucoup de boulot dessus. Et les sponsors, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ils interviennent assez tard dans le dispositif pour s'insérer intelligemment dans les ateliers, mais c'est pas eux qui imposent les ateliers ou leurs sujets. Et donc, chaque année, on a une thématique principale. Et puis, en même temps, on essaye de varier. Hein. Il y avait sept tracks, je crois, cette année, sur chacun des 2 jours. Et en plus, bah, le public étranger est bien accueilli, puisqu'on a de l'anglais presque dans toutes les salles et de la traduction. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste sur l'organisation du contenu.
Un contenu assez riche et varié, donc.
Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, c'est vrai que le public cible du contenu qui est monté est pas très technique, parce qu'on essaye d'intéresser un petit peu tout le monde.
Il y a des tracks assez techniques quand même, je crois, non ?
On essayait, mais sur l'ensemble, c'était pas très technique, effectivement, et c'était pas l'objectif non plus. Mais on peut faire des choses plus techniques.
Au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de monde, en fait, ça devient de plus en plus grand public, et donc le niveau baisse légèrement pour que ce soit un peu plus de la vulgarisation, finalement.
Hein. Non, pas tout à fait, parce que si t'avais connu les tout premiers FIC, les tout premiers FIC étaient très vulgarisation, justement. Et là, ils sont quand même beaucoup plus variés. Les tout premiers, c'était vraiment très grand public comme sujet. Hein.
Ah oui, il y avait uniquement ça.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'était bon, là,
c'est
plus
vrai que c'est différent, ouais. Ouais.
Moi, je confirme ce que dit Eric sur alors pas du tout sur le point de vue de l'organisation parce que j'y étais pas du tout, mais nous on était sur le pôle d'excellence cyber, donc je le rappelle, j'ai pas de com, mais on a dit ben voilà, on a un slot d'une heure pour faire une table ronde, ce qu'on veut, le sujet qu'on veut, donc c'est assez libre. Ça a été monté en amont, hein, c'est des histoires de 4-5 mois avant, donc là c'était vision de l'attaquant. Et on était vraiment libre sur la structuration des intervenants, la table ronde qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait. Et on peut faire du technique, il est libre à toi. On peut, et ça c'est vraiment très agréable. Il y a pas de, on te dit pas, bah, voilà, faut parler de ça, faut parler de tel sujet, faut parler de ça. Si t'as envie de parler d'un sujet, bon, bah libre à toi. Ça c'est intéressant, vraiment intéressant.
Et l'appel à proposition est assez longtemps avant On n'a jamais assez de propositions, donc si on pouvait passer un message ce soir, c'est proposer des choses pour l'année prochaine.
Donc, du coup, sur les annonces ou les tables rondes ou les conférences, parce que bon, voilà, c'est en parallèle du FIC, il y a des partenaires qui ont leur stand, on voit des gens, il y a la piste aux étoiles, c'est assez tagué quand même, étatique un peu, et décideur, mais il y a tout le côté parallèle des tables rondes. Moi, j'y ai pas assisté, donc c'était comment?
Alors, les tables rondes, justement, Patrick, tu as assisté à un atelier qui était une agora, c'est ça?
Oui, alors j'ai participé à deux tables rondes, enfin, je suis intervenu, donc une qui était une agora sur l'avenir des métiers de la sécurité et une un peu plus traditionnelle sur la sécurité de la mobilité. Bon, donc celle-là, on y reviendra peut-être un peu plus tard, si vous voulez. Celle sur l'agora, c'était assez rigolo pour le thème et pour le format, puisque, bah, comme son nom l'indique, c'était une agora au sens grec du terme. Donc, il y avait une liste d'une bonne trentaine d'intervenants qui pouvaient prendre la parole en levant la main. Et c'était animé par notre ami le général organisateur qui distribuait la parole. Donc, en fait, chacun pouvait intervenir sur sa vision de l'avenir des métiers de la sécurité. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une majorité de RSSI dans la salle qui s'exprime justement sur l'avenir de leur métier à eux. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse majorité, enfin une forte majorité de gens issus de l'enseignement, donc des gens qui enseignaient en école ou en université, voire de la recherche, donc des gens qui étaient dans des labos, et puis pas mal de gens des administrations, militaires ou autres, ce qui fait que les RSSI et les professionnels de la sécurité dans le privé étaient en minorité. Alors c'était assez rigolo, donc moi je représentais le CESA en plus avec d'autres membres du CESA justement, qui est le club de la sécurité, enfin le club des RSSI en France. Et bah on a pu avancer quelques pions et quelques visions du privé dans le domaine, mais on a eu aussi beaucoup de visions sur le futur de l'enseignement de la sécurité, etc. Donc ça c'était intéressant de ce côté-là. On s'est aperçu d'ailleurs que c'était pas gagné d'ailleurs pour qu'on ait des enseignements un peu plus avancés dans le domaine de la sécurité. Parce que même si nous, en tant qu'RSSI, on a exposé nos besoins, hein, c'est-à-dire qu'on veut des RSSI qui soient compétents, pas seulement techniquement, mais aussi juridiquement, humainement, qui sachent communiquer, parler en public, etc. Et puis, dans les écoles et les universités, les profs nous disaient « Ben oui, mais bon, c'est pas facile de créer des enseignements qui apprennent tout ça aux élèves. C'est pas facile d'avoir des enseignants qui sachent enseigner ça aux élèves. » Parce qu'effectivement, un enseignant lui-même ne peut pas forcément enseigner à la fois la technique et puis d'autres trucs. Enfin, c'est assez dur de trouver des profils comme ça. Donc, c'était un petit peu sous forme de brainstorming. On a eu quelqu'un qui prenait des notes et puis qui nous a fait une petite restitution de l'agora à la fin. C'était pas mal. Donc, s'il y a une production d'écrit dans les actes, je vous conseille de le lire. On va voir ce qui ressort de cette agora. Et c'est un format qui est visiblement plu et je pense que ça va être produit lors du FIC de l'an prochain. Voilà.
C'est intéressant, des nouveaux formats comme ça.
Et tu verrais quoi comme sujet pour l'année prochaine sous forme d'agora?
Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Bah, ça peut permettre de mixer des profils très différents. Donc, il faudrait trouver un sujet.
Il faut demander à Nicolas.
Intéressant de mixer des avis qui viennent de milieux différents.
La sécurité est-elle un échec, c'est ça?
Tu parlais de marronnier, tu vois.
Ah oui, alors c'est assez rigolo parce que j'ai entendu au moins deux fois dans des keynotes ou des conférences que non, finalement, la sécurité n'est pas un échec. Donc il y a des gens quand même qui se positionnent par rapport à cette position de Nico et puis de pas mal d'entre nous finalement et qui essayent de dire que non, non, c'est pas un échec.
Alors, ouais, j'ai lu dans la presse un titre qui disait « Les hackers ont gagné la première bataille, mais pas la guerre » ou un truc comme ça. Je sais plus quel journal a titré quand même là-dessus. Mais...
Ouais, je l'ai vu passer ce truc-là aussi, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal du tout, ouais.
Le fameux challenge, on va en dire deux mots.
Les challenges. Oui, il y a eu trois challenges. Alors, au départ, c'était plus ou moins présenté comme des challenges de recrutement. Bon, en pratique, quand tu vois les gagnants, ils travaillent tous déjà dans l'industrie de la cybersécurité, française ou étrangère.
En Suisse, d'ailleurs.
En Suisse, ouais, voilà.
Ouais.
Félicitations pour ta seconde place.
Tu sais ce que dit Stallone, hein, dans Le Bras de Fer.
Oui, mais alors non, c'est un chef-d'œuvre ce truc-là, mais je me souviens plus.
Le second, c'est un con.
Le second, c'est un con.
Ah vache, il y a de la référence ici. Ok, ça marche.
Non, mais félicitations au gagnant. Enfin, je le connais personnellement, c'est un ancien collègue et il est imprenable dans les CTF. Après, on peut discuter sur la représentativité de ces jeux. Enfin, tu vois, c'est essentiellement de la stéganographie.
Pour les trois challenges, enfin les trois groupes de challenges.
Alors ça dépend. Les deux premiers, c'était des challenges assez classiques avec je sais pas une trentaine ou une vingtaine d'épreuves à résoudre. Tu peux résoudre dans n'importe quel ordre. Alors il y en avait un où tu étais obligé de résoudre le niveau 1 pour passer au niveau 2 dans chaque catégorie. Par contre, il y en a un autre où tu peux carrément résoudre ce que tu voulais dans l'ordre que tu voulais. Donc tu restes jamais bloqué et puis en 2 heures ça passe assez vite. Par contre, il y a quand même souvent le tiers, voire parfois une moitié des challenges où c'est la stéganographie. Donc tu récupères une image, un fichier, son, n'importe quoi. Et tu dois retrouver où est l'information. Alors des fois, je ne sais pas, il y en avait un. En fait, c'est dans le spectre audio du fichier son. En fait, si tu passes justement dans Audacity, tu vois des dessins. Le truc qui avait présenté l'ANSI ASTIC l'année dernière.
Okay.
Des trucs comme ça, quoi. Mais le problème de ces challenges-là, c'est que c'est souvent basé sur l'astuce. Si t'as pas la bonne idée, tu peux chercher pendant des heures et tu trouveras pas. Et c'est totalement pas représentatif des compétences que tu utilises dans l'entreprise. Enfin, je veux dire, quand t'es derrière ton SOC ou que tu reverses du malware suite à une attaque.
Moi, je suis d'accord, c'est un peu old school quand même. Enfin, voilà. Bon, j'ai des idées derrière la tête et je parlerai pas de mini-pol ou d'événements où je pense faire un truc. Mais. Bon, les challenges, c'est bien, mais il y a un moment, il va falloir expliquer aux gens ce que c'est de la vraie vie, quoi.
Alors, la vraie vie, c'était le troisième challenge.
Voilà.
Donc, j'ai fait un compte rendu sur Internet. On a même pas compris que c'était la stégano. Et en fait, on a juste routé la machine qui servait à héberger le challenge et qui s'avérait être le poste de travail perso d'un consultant. Enfin, bref, ça aurait pu déraper, quoi.
Oui, il aurait pu.
Mais alors, finalement, là par contre, et ton blog d'habitude très clair n'était pas très clair. Finalement, comment on a compté les points sur ce truc-là, sur le troisième challenge?
En fait, dans la dernière demi-heure, ils ont filé des indices à toute vitesse et du coup, ils regardaient combien de temps les gens mettaient à trouver, quoi.
Ok.
Mais ce truc, bon. Après, ce truc, c'était complètement foireux. Par exemple, il fallait lire des mails qui étaient déposés dans des mailbox sur Internet. Et en fait, il y a certaines mailbox où les mecs avaient effacé des mails. Tu vois, je sais pas qui, hein, un des premiers à être rentré dans la mailbox avait effacé des mails. Ce qui fait que tous ceux qui cherchaient derrière ne pouvaient chercher longtemps, quoi.
Ah ouais, ça craint, ouais.
Ouais, ça craint. Alors après, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils voulaient organiser un CTF attaque-défense au départ et que pour quelqu'un, alors j'ai pas compris si c'était les organisateurs ou c'était l'ANSI ou je sais pas quoi, a dit que un CTF attaque-défense au FIC... c'était quand même abusé parce que on flirtait vraiment trop avec la légalité, etc.
Quoi?
Il fallait pas enseigner des techniques offensives.
Mais c'est terrifiant ce truc-là.
Je sais pas si c'est vrai, hein, mais bon, c'est quelqu'un de l'orga qui m'a dit ça. Alors, est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est pour justifier le fait qu'ils ont tout refait 2 jours avant? Bon, j'en sais rien, quoi.
Parce que, les CTF attaque-défense, c'est hyper formateur, au contraire. Enfin, je sais pas, ça fait partie. Alors, notamment, là, il n'y a pas tant que ça de guess, parce que tu disais effectivement, les trucs qui font de la stégano, faut avoir une espèce d'intuition, parfois complètement magique et totalement obscure sur le oh, mais mon dieu, bien sûr, il faut que j'aille regarder le quatrième bit et que je compte la parité à la fin, quoi. Et bon, on sait pas trop pourquoi, mais les attaques défense, clairement, bah, les gens sont obligés de montrer un peu du skill et puis au contraire, justement, ça permet vraiment de faire de la, bah, de montrer aussi les skills en défense. Et si, notamment, on marque des points quand on défend bien, c'est hyper pertinent, en fait, je trouve. Donc, voilà. Un jour, il faudrait qu'on fasse un numéro sur les CTF, ouais. D'ailleurs, les différents types de CTF.
Il y a des CTF qui sont assez réalistes. Moi, j'ai fait le Symantec Cyber Readiness Challenge.
10 euros. Et...
Bah, écoute, bon. Si je m'engage à citer tous les éditeurs antivirus, ça va, ça annule ou pas?
Y compris ceux qui sont français.
Il est politiquement correct, finalement. Ou je dirais pas comme ça, mais...
À la fin, c'était hallucinant comme challenge. C'est-à-dire que l'étape 1, c'était d'installer un VPN Cisco. Tu y allais dans l'infrastructure de Symantec et là tu te retrouvais sur une machine qui était connectée à un spot Wi-Fi, tu routais un PHP, tu arrivais sur un poste Windows avec une appli en .NET qui se connectait à un backend d'Oracle, il fallait retrouver les logins qui étaient hardcodés dans le .NET, etc.
Enfin, c'était organisé dans quel contexte?
C'est une sorte de compétition européenne qui font... Bon, c'est essentiellement du recrutement, je pense, mais...
C'est à distance?
Alors non, là, celui auquel j'ai participé, c'était à la Porte Maillot à Paris. Et ensuite, les meilleures équipes étaient invitées à venir à la finale européenne, qui était cette année, enfin l'année dernière à Nice, je crois. Mais globalement, ce que j'ai trouvé de différent dans ce CTF, c'est que c'était pas du FreeBSD, c'était pas d'Astegano. T'avais des vraies applis d'entreprise avec des vrais trucs que tu vois en pentest, quoi. Et là, pour le coup, je pense que ça, en plus, c'était vraiment long. Hein, c'était genre toute la nuit, c'était pas genre 2 heures.
Et donc. Et sinon, le FIC. On n'a pas dit qu'on ferait un épisode là-dessus. Ah, non, je pense que Nicolas voulait parler d'un label, ouais.
Ah, voilà. Bon, alors, qui veut introduire cette notion de label?
Ah, j'ai eu peur.
Qui veut introduire le label d'Axel Gagnon?
Axel, alors.
S'il vous plaît.
Donc, je crois que le label France Cybersécurité, ça a été quand même la grosse surprise du FIC où on nous annonce d'un seul coup que presque une trentaine de produits, services, enfin ça va un peu tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux faire du pentest et hop, t'es labellisé. Tu peux vendre un téléphone chiffrant qui a destiné à peu près 100 personnes en France et hop, t'es labellisé aussi. Et ce label a été annoncé au FIC et j'essaye de savoir ce que c'est, comment on peut l'avoir, combien ça coûte. Parce que le cahier des charges, il tient en une page HTML statique sur Internet. Enfin, c'est quand même un WordPress, mais c'est pas tout à fait statique. Mais voilà, j'essaie de savoir comment on peut l'avoir, où est-ce qu'il faut postuler, combien ça coûte, est-ce qu'on peut perdre le label, est-ce qu'il faut le renouveler, qu'est-ce qui se passe si on se fait racheter en cas de fusion-acquisition. Enfin, c'est quand même des questions intéressantes. Quoi. Quand on délivre un label à un poulet élevé en plein air, savoir combien d'air il a respiré. Quoi.
Alors, ça a été annoncé il y a quelques mois déjà, le label. Hein, dans le cadre du plan 33, justement, qu'évoquait Guillaume, au mois de juin, je crois.
Ben là, il y a une remise des prix en bonne et due forme, avec un parterre.
Voilà, assez... mais ça ne sort pas du chapeau. Ça vient des discussions du plan 33. Et c'est un besoin des industriels français de faire reconnaître. Et valoriser leurs produits en matière de cybersécurité. Donc ça y répond.
Valoriser auprès de qui?
Auprès de ceux qui veulent acheter, qui veulent des services dans lesquels ils ont confiance.
Oui, enfin...
C'est ça, les labels.
Tu veux dire qu'aller mettre un tampon à cabinet de prestation de service X, puisqu'on n'a pas le droit de citer de nom, ou logiciel de chiffrement Y, ça va... C'est le truc qui manquait pour un acheteur d'une boîte française pour se décider.
Dire qu'en France, on a des produits comme ça et qu'en plus, on va aller les vendre à l'étranger. Tu as bien vu pour la French Tech comment ça a marché au niveau de Las Vegas. Ça peut porter ses fruits et ça peut faire vendre. Et ça peut aussi valoriser et donner envie de développer des nouvelles choses.
Bon, on va dire que je troll, mais alors je suis exactement d'un avis contraire. Mais,
mais pourquoi?
Tu penses que si Kaspersky mettait un Dracovirus sur toutes ses boîtes d'antivirus, il les vendrait mieux à l'étranger?
Il les vendrait peut-être dans certains pays, Et peut-être que nous, avec le label France, on le vendra dans certains pays aussi. Peut-être que les Chinois vont vouloir les acheter. Comme ils achètent des Airbus parce que c'est des trucs français et allemands et ils y font confiance.
Oula, je...
Ah non, j'ai dit une marque, mince, je mets 10 euros.
Ouais, je pense que... J'ai pas une très bonne expérience de la négociation de gros contrats à l'international, mais je pense que ça se joue pas forcément sur la nationalité.
Non, du pas que, c'est un plus.
T'as vraiment, Nicolas, certaines zones, et moi je peux en parler d'autant plus facilement qu'on fait pas partie de ce truc-là, mais t'as des zones comme en Afrique, où voilà, le fait d'être français est encore bien vu.
Ok.
Sur un point de vue business, hein, après.
Bon, bah, écoute, j'attends de voir combien de téléphones chiffrants et de prestations d'audit SSI on va vendre au Sénégal grâce à la Belle France. Non.
Le problème, Nicolas, c'est que toi, t'attends de voir. Nous, on essaie de faire. Enfin, on pourrait en parler, mais bon, ça fait 25 ans que j'ai, enfin, 20 ans que j'essaie de développer une boîte à Brest, pas à Paris, qui essaie de faire l'entraînement pour la sécurité. Et puis, alors maintenant, c'est à la mode et tout, on parle de planning et tout ça, mais bon, donc. Voilà, il y a un moment, parce que j'ai vu ton blog sur voilà, les sociétés sponsorisées, les machins. Des fois, il y a un moment, tu te dis, bon, ok, mais vas-y, colle-toi, fais-le, essaye de faire ça, développe une activité, un machin, un truc, enfin voilà, dans la vraie vie.
Quoi, tu sais que ton discours ne portera pas, ça sert à rien.
Je sais bien, donc laisse tomber.
C'est pas la première fois qu'on lui dit.
Oui.
Ah, mais c'est hors de question que j'aille à Brest essayer de développer des prestations de services en sécurité en France.
Mais à Nice, si tu veux.
Mais à l'agneau, si tu veux.
Non, mais arrêtez les gens. Enfin, vu de l'étranger, la France, ça n'existe pas. Les gens, ils savent pas quelle est la nationalité de Skype, de Docker ou de machin.
Ah si, bien sûr qu'on sait.
C'est bien qu'ils le connaissent quand même. Enfin, je sais pas.
Mais oui, mais le problème, c'est que ça les intéresse pas. Soit le service y marche, ils l'utilisent.
Je suis pas là pour vivre le sujet. Je suis là pour faire évoluer les choses, pour essayer de construire le monde. Tu vois, tu comprends de...
Si un produit est bon, il se vend en lui-même. Enfin, c'est non, pas tout à fait vrai.
C'est pas la faux, mais bon.
Enfin bon, ouais, bref. Donc le FIC, conclusion.
On en a déjà la conclusion.
Je sais pas.
Ouais, je pense qu'on en a la conclusion là.
Bah franchement, c'est la première fois que j'y allais et j'ai trouvé ça très agréable. Au départ, je n'étais pas forcément rassuré. Et finalement, enfin, c'est un endroit vraiment super pour rencontrer des gens de plein d'horizons différents. Et finalement, j'ai envie de dire, beaucoup de choses se passent plus dans la relation entre les gens que peut-être certains effets d'annonce, effectivement, qui n'étaient pas forcément tous très enthousiasmants. Mais par contre, cet aspect-là était vraiment chouette. Ouais. On rencontre les gens, ça permet d'avoir un bon aperçu de qui on trouve en sécurité en France aujourd'hui et donc à l'étranger avec les 600 personnes qui sont venues.
La conclusion, c'est que il y a quand même un aspect du FIC dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'aspect social. Qu'est-ce qui se passe une fois que les portes sont fermées? Et je pense que de ce point de vue, c'est un grand succès.
Oui, carrément.
Rien que pour ça, effectivement, le FIC, depuis toutes les années où il grossit, ne perd pas ce côté-là et il faut surtout pas qu'il le perde.
Alors moi, ma conclusion, c'est en tant que partenaire, donc ce qu'on appelle des exposants au FIC,
C'est l'inverse.
Oui, je sais. C'est pas cher et il y a une très bonne visibilité. Et si vous voulez faire du technique, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire du business, ce qui n'est pas forcément notre cas, il n'y a pas de souci. Et il y a un vraiment bon public et un très bon ratio qualité-prix, visibilité et puis public décideur.
Effectivement, alors moi, de mon côté, je trouve qu'effectivement le public n'est pas tout à fait le même que dans les autres événements, notamment les assises, donc c'est assez intéressant. Plus axé sur les administrations, la défense, l'enseignement, c'est pas mal du tout. Ça permet de revoir des copains dans un contexte agréable. Et puis voilà, donc ça a tout à fait sa place, effectivement, à côté des autres événements.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Bye bye. Ciao, ciao!
Ciao!
Bientôt! Salut!
Salut.